Je vous le disais, j'ai eu un coup de cœur donc, que j'avais envie de vous faire partager. Une de ces rencontres comme ça fugaces, et on sait qu'on n'a pas vraiment les moyens de les approfondir, mais on a envie d'en parler. Eh bien, ma rencontre fugace, ce fut cet été, il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, avec les femmes corses. Des armes. Telle est la prise de position des femmes en Corse que j'ai découvert dans Corse Matin le 13 août de cet été. La violence qui secoue la société de l'île Corse est une vérité que les Corses aujourd'hui ne peuvent plus taire et ne se taisent plus. Énumérer les calamités, les raquettes, les plastiques cages, les meurtres, les braquages et les incendies qui rythment l'existence de ces 253 000 habitants qui vivent aujourd'hui en Corse, on serait un petit peu tenté de réduire ainsi la vie en Corse. D'ailleurs, on ne se passe pas de le faire puisque certains le font comme argument pour essayer de retenir les touristes de venir en Corse. Tant mieux pour ceux qui y vont encore, cela dit. Mais à 5 ans de l'an 2000, plus personne, ni l'État et encore moins les responsables locaux, ne semblent pouvoir enrayer la dérive de cette société en Corse. Alors, sans pudeur, et c'est récent, les Corses eux-mêmes font part de leur exaspération à l'égard de cet univers complètement extravagant. Témoin, par exemple, un pamphlet qui a été publié en avril dernier dans le quotidien Corse Matin par une intellectuelle respectée, pionnière de l'autonomisme, corse, qui s'appelle Gisèle Poli. Je la cite. « Nous vivons dans une société bizarre. On voit des incompétents parler d'économie, des nullards tirer leurs revenus de la culture, des prétentieux empocher des crédits pour enseigner une langue qu'ils ne connaissent pas, des profiteurs de toutes sortes qui ont su se placer. Pendant ce temps, des plans entiers de la population vivent dans l'insécurité. » Cette atmosphère de république bananière presque on pourrait dire, l'État français aura largement bien sûr contribué à l'entretenir en jouant depuis toujours des rivalités intestines qui règnent en Corse et bien sûr cela jusqu'à un peu la caricature puisque on sait que 300 communes, 2 conseils généraux et une assemblée territoriale, 4 députés, 2 sénateurs existent en Corse et malgré tout cela, rien ne se passe. Près de 4200 élus, rien que pour la Corse, imaginez. Une véritable galaxie verrouillée par 2 octogénaires pourtant qui tiennent le pouvoir, 2 hommes à eux seuls, un dans le nord et un dans le sud. Alors, c'est des familles qui détiennent des mandats politiques depuis au moins 1880, imaginez. Il y a bien sûr quelques concurrents qui leur fourbissent un petit peu leurs proches dans l'avenir local, mais en fait, l'exercice du pouvoir sur l'île semble déterminé pour ad nauseam, comme dirait quelqu'un, pour une tradition clientéliste. Alors, il y a par exemple un monsieur d'Ajaccio d'une cinquantaine d'années qui ne décolère pas. Il dit « Vous trouvez ça normal, vous, qu'un gamin de 20 ans, pétant de santé, bénéficie d'une pension d'invalide de guerre à 100% ?» Il y a une génération de sacrifiés, dit Gisèle Poli, celle habituée au passe-droit, aux pensions. Alors ce commentaire un peu intuitif de Gisèle Poli, qu'elle a puisé un petit peu dans une indignation assez épidermique, mais qui confirme en même temps des propos beaucoup plus analytiques qu'elle tient. Notre culture montagnarde, la seule qui compte, dit-elle, a témoigné selon les époques et les régions de l'agacement ou de la hargne qu'inspiraient les notables, les propriétaires terriens, les chefs de clan, les dépositaires du pouvoir. Le travail s'obtient par relation, les postes importants par l'intrigue, les avantages sociaux par l'agitation et les responsabilités par préférence, les subventions par copinage. Et pourtant, les jeunes restés sur l'île montrent de plus en plus leur mal-être avec ostentation. Petit commis de l'État, Gabriel, par exemple, se souvient que son père, berger analphabète, ne parlant pas le français, a appris à lire dans ses propres livres d'école, puis a dévoré Voltaire et Balzac. Il dit « Il a servi ensuite en Indochine, en Algérie, avant de finir intendant dans un lycée, mais il s'était ouvert sur le monde, au moins lui. » Et il ajoute gravement « Jamais je ne laisserai mes gosses faire leurs études supérieures en Corse, quand même. » Pour des Corses, c'est un peu étrange comme prise de position. Alors cette expression volontariste d'un sentiment qui est hélas aussi répandu que dissimulé, semble-t-il, en Corse, de beaucoup de parents, eh bien, ces parents inquiets des phénomènes qui enferment les gens et qui pèsent très lourdement dès l'âge de 5 ans sur leurs enfants. Alors, depuis quelques années, une part grandissante de la jeunesse affiche une sorte de tendance suicidaire à retourner ses canons contre elle-même. Gabriel continue en disant « Voyez ce village, il y a 5 gosses séropositifs, on ne les voit jamais, la famille s'en occupe mais les cache ». Antoine, qui est instituteur, soupire de la même façon. Toute proportion gardée, il y a plus de toxicomanes en Corse qu'à Marseille. Ces jeunes, qui n'ont jamais foulé la terre continentale, envoient des signaux de détresse de plus en plus durs. L'oisiveté qui rend fou, l'ennui qui pourrit les paris stupides, l'orgueil qui enflamme les passions, n'en finissent pas de tourmenter ceux qui essayent de résister encore à l'engrenage malsain. C'est que, bien sûr, l'île, rappelons que « île » vient du latin « isola » qui veut aussi dire « isolé », eh bien, c'est tout un monde d'altitude. C'est une giboulée de caillasses, où s'encastre, il y a des nids d'aigle, comme travaillé à la gauche, c'est des falaises ravinées, avec des si jolis petits villages, mais parfois, ces villages avec des grosses, grosses gendarmeries. Mais sait-on vraiment si quel type de solitude triomphe ici ? Est-ce que c'est la solitude admirative des beaux paysages ? Pas seulement. La Corse tue ses enfants, affirme Paul Canarelli, qui est psychiatre à Bastia, et qui n'en démord pas. Il affirme au Écours « Et vous devez l'écrire ». Le praticien, à l'origine de cette thèse, selon laquelle la catastrophe de Furiani, celle où des échafaudages pour un match de football s'est donc écrasé, provoquant la mort de nombreuses personnes, aurait permis de ressouder les liens d'une communauté, même dans la douleur de la mort. Eh bien, la montagne de notre île est finalement devenue un peu comme une prison. Et pour un jeune ce monde, il n'y a qu'une façon d'y échapper. Le suicide, avec des techniques diverses bien sûr. C'est par exemple s'exploser dans sa voiture en sortant ivre d'un nightclub, ou bien faire un braquage, ou bien se piquer. Et les individus n'ont pas le courage d'affronter la réalité. La paranoïa, cette peur de l'autre qui s'inscrit dans la vie sociale corse, détruit tout désir. Et le désir, annihilé de prendre sa vie en main, d'envisager un avenir, frappe donc une certaine jeunesse aveuglément agrippée au revenu minimum, comme à une bouée à demi gonflée, renforçant ainsi le cliché ignoble du Corse qui ne fiche pas une date. Il y a 20 ans encore, dit Toussaint, officier de la coloniale en retraite, les habitants se mobilisaient pour relever un muret qui s'était effondré. Aujourd'hui, vous pouvez toujours courir. Le folklore local, tant apprécié par les touristes, par exemple des animaux errants sur les routes. Eh bien, je peux vous dire, ça ne réjouit guère les autochtones, dit-il. Quand les vaches bagnotent sur les routes multières si étroites qu'on les dirait crispées par le vertige, c'est au risque de provoquer des catastrophes. Les éleveurs s'en foutent. Le conseil général a payé des barrières, jusque pour que les bêtes ne sortent pas de la route. Ironise un maire, par exemple. Si un démien a un accident, ça se règle à coups de fusil. D'éternelles mesquineries fossilisent de plus en plus les rapports communautaires. Alors comment ce peuple, de si profonde spiritualité ? Il suffit d'entendre les polyphonies, ces magnifiques chansons dont vous avez entendu un petit extrait au début, polyphonies interprétées par le groupe de femmes les Donis Zulana, les femmes de l'île, je vous en reparlerai tout à l'heure. Eh bien, ces polyphonies qui expriment une telle sincérité, comment aujourd'hui ce peuple corse a pu ainsi s'égarer dans les dédales de ses propres valeurs ? L'Église, par exemple, bien implantée, ne se désespère pas de compter les coups que se portent ses ouailles. Par exemple, il y a dans certaines églises, et vous le verrez, les femmes s'y opposent, on accepte des sortes de rituels de guerre au moment des enterrements des gens qui ont été assassinés. Mais heureusement, il y en a d'autres qui s'y opposent. Par exemple, l'abbé Modoloni, qui lui est curé à Ponteleccia et qui se définit comme nationaliste, et lui ne marche pas ses mots. Il dit « Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, c'est tout. Il faut réfléchir et trouver quels moyens utiliser pour dissiper cette folie. » La Corse, ça n'est tout de même pas la Sicile ni le Rwanda. Les nationalistes en particulier, les clandestins du Front National de Libération de la Corse, qui sont censés, donc qui sont clandestins, pas censés être dissous, ont été longtemps perçus comme des arbitres salubres en quelque sorte, en plastiquant notamment les résidences de la spéculation immobilière, ou bien en punissant graduellement certains trafiquants. Dans cette île où, de l'avis de tous, l'état de droit s'exerce de façon plus ou moins lunatique. Mais, depuis 1990, et c'est ce qu'on a retrouvé dans les arguments antitouristiques, ces partis, c'est-à-dire à peu près 22% des voix et leurs branches armées respectives, c'est-à-dire le FNLC, canal habituel comme on l'appelle, et Resistenza FNLC, canal historique, se déchirent et s'entretuent. Alors, il faut évidemment pas se trouver au milieu. Regrouper certains courants d'où émergent quelques personnes réfléchies, comme par exemple les dénommés Max et Edmond Simeoni ou Pierre Poglioli, s'opposent désormais à ces partis nationalistes et à leur comportement de leurs bras clandestins militaires. Le canal historique FLN est accusé de ne dialoguer que par cadavres interposés. Bref, il ne peut exister de démocratie quand il y a collusion entre les partis politiques et les bandes armées, explique un vieux militant nationaliste. Et lorsque l'on parle en Corse de dérive mafieuse, eh bien cela signifie uniquement qu'une bande de tueurs s'approprie le pouvoir sous le couvert d'un parti politique. Dans ce contexte exacerbé où les armes parlent plus vite que les propositions de réforme à la République, rien d'étonnant à ce qu'une frange de la jeunesse insulaire se sente privée de destin. Et c'est Stéphanie, qui a 33 ans, qui s'exprime. Il faudrait que 100 fleurs s'épanouissent. La plus belle des îles de la Méditerranée et ses habitants méritent évidemment cela. Et la paix urgente et durable du sang, avant même celle nécessaire des braves. Et pourtant la violence et la détention d'armes à feu sont en Corse des valeurs culturelles qu'il faut considérer comme objectives et qui trouvent leur origine dans la résistance à l'envahisseur, cet envahisseur très nombreux depuis des siècles et des siècles. Pourtant, aujourd'hui, il semblerait que l'ensemble des générations du peuple insulaire subit les effets, bien sûr, très pervers de ce particularisme local. Et à bout de silence, les femmes corses en ont pris conscience. Et en janvier dernier, elle lançait le manifeste pour la vie, déterminé à réveiller une société tétanisé. Oui à la vie, non à la loi des armes. Les femmes signataires du Manifeste pour la vie ont diffusé le communiqué suivant. Nous, femmes du Manifeste pour la vie, nous nous sommes engagées à construire une société libre, ouverte et démocratique. Nous nous sommes engagées à prendre la parole et à dénoncer ce qui nous semble être les causes d'un profond malaise de la société corse. Pour la seule année 1994, la Corse est créditée de 18 meurtres pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale pour la même année est de 2,6. Triste record. Rien à ce jour ne laisse supposer une inversion de la tendance, comme si nous étions pris aux pièces d'une infernale spirale, dans laquelle plus aucun discours ne semble redonner l'espoir d'une société meilleure. Même si des voix s'élèvent pour dénoncer la dérive, les pressions, la perte des valeurs, les malversations de tous ordres, la société corse s'enlise et chaque jour nous assistons à l'horreur des meurtres, à la violence civile et au désarroi collectif. Prendre la parole pour nous, femmes du manifeste, est un engagement, un choix, une volonté afin d'ouvrir un large débat pour que chacun retrouve sa place de citoyen. Pour cela, nous ne pouvons faire l'économie d'une analyse sur ce qui nous a conduit à cet état de fait. Cette analyse est au cœur de nos débats, de nos réunions. Elle nous conduit à réclamer à la fois un éveil des consciences et une application des lois, afin que chacun retrouve ses responsabilités. Quelle responsabilité face au meurtre ? La majorité de ces meurtres ont été perpétrés par des armes à feu. Les meurtres se trouvent souvent justifiés d'une quelconque raison obscure. Mais nous sommes à chaque fois renvoyés à une dimension culturelle qui ferait de tout Corse un porteur d'armes. Nous, femmes du Manifeste pour la vie, nous affirmons qu'on ne peut pas continuer à penser que porter une arme est un simple fait culturel. Certes, l'arme a toujours eu une certaine présence dans la société corse. Son usage était codifié, mais pas forcément accepté, parce que générateur de dérives et de drames. La société corse d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle a subi de profonds bouleversements, des crises économiques, des crises idéologiques, auxquelles peu de sociétés ont pu échapper. Nous pouvons en repérer les effets sur un plan plus général, en France continentale ou en Europe. Notre situation insulaire ne nous en a pas protégés. Et il apparaît même que les espoirs soulevés par la revendication d'une différence identitaire se soient heurtés à une réalité bien décevante. Dans une période de mutation, il paraît nécessaire d'en appeler aux consciences de chacun. Citoyens, élus, hommes et femmes de l'appareil juridique, hommes et femmes des mouvements politiques, responsables de la diffusion de l'information, afin de nous permettre de trouver des repères autres que ceux véhiculés par la facilité de l'argent qui circule dans le nouveau milieu corse, autres que ceux véhiculés par le mythe du clandestin. Nous rappelons avec force que sortir armé, c'est sortir avec l'intention consciente ou non de tuer. Nous rappelons avec force que la virilité n'est pas contenue dans le port d'armes. Nous rappelons avec force la nécessité de l'instauration sur l'île de l'état de droit, afin que la société corse cesse d'être soumise à la contrainte armée. Nous appelons à agir avec nous, tout homme et toute femme de bonne volonté, afin de trouver une société libre et démocratique, afin que le droit à la vie reprenne sa dimension d'espoir. Le 20 août dernier, une centaine de femmes, toutes bien sûr signataires du manifeste pour la vie que je viens de vous lire, se sont réunies en manifestation à Corte, une ville qui est au centre, au cœur des montagnes corses et qui est le symbole de l'indépendance, de l'autonomie, du nationalisme de la Corse. Et elles se sont réunies en appelant toutes les femmes de Corse à se mobiliser pour refuser les meurtres, la loi des armes, l'état de non-droit et les bouches cousues. Alors je vous lis l'article qui est paru dans le journal Corse ce matin pour évoquer cette manifestation. On sait qu'un certain nombre de femmes insulaires ont choisi de relever un terrible défi, celui de la violence qui sévit dans l'île. Depuis l'hiver dernier, elles ont multiplié les appels à la manifestation, se sont rassemblées après chaque nouveau meurtre devant le palais de justice à Bastia et à la préfecture de Ajaccio pour réaffirmer chaque fois que le respect de la vie est fondamental. Après des lettres adressées au procureur de la République, au conseiller supérieur de la magistrature et aux candidats maires lors des dernières élections municipales, un texte a été publié sur la banalisation du port d'armes et la violence qu'il entraîne. Considérant que celle-ci intervient lorsqu'on ne peut plus parler, l'idée est venue de créer un espace de parole, car, entre guillemets, « parler, c'est déjà agir », ajoute-t-elle. Nous voulons agir sur les consciences, disent les femmes signataires du Manifeste pour la vie. Nous voulons être une force de questionnement. Alors le 20 août dernier à Corte, elles ont été plus loin, condamnant des propos du préfet, interpellant les élus, demandant une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, lançant un appel aux autorités morales ainsi qu'aux nationalistes. Voici l'essentiel de leur communication faite le 20 août à Corte. Aujourd'hui, la situation s'est encore aggravée et l'on voit s'installer en Corse un régime de terreur qui menace chacun et chacune d'entre nous. Nous voulons redire ici notre indignation devant l'attitude de l'État qui semble décidé à ne pas intervenir et à laisser pourrir la situation. Les propos du préfet de Corse dans une interview au Monde le 27 juillet dernier sont signe de cela. Nous le citons. « Le combat cessera, faute de combattants ». C'est indigne. Il sait très bien que cette spirale meurtrière menace toute la Corse. Ses propos constituent, de la part d'un représentant de l'État, une véritable provocation. Nous demandons qu'il soit désavoué et qu'il parte. Nous voulons qu'en Corse, la loi soit appliquée, que les crimes ne restent pas impunis, que les meurtriers soient arrêtés et jugés. Nous n'acceptons pas que notre pays soit abandonné aux seigneurs de la guerre et aux tenants de la force. Nous demandons aux élus, particulièrement à ceux qui se retranchent derrière leur impuissance, qu'ils cessent leur jérémiade, qu'ils agissent partout où ils le peuvent contre la banalisation de la violence armée, qu'ils cessent en particulier d'intervenir pour faire libérer les contrevenants au port d'armes, qu'ils cessent eux-mêmes de porter des armes. Nous demandons au président de l'exécutif et au président de l'Assemblée de Corse que soit convoquée une session extraordinaire de l'Assemblée pour qu'elle se détermine sur l'élucidation des crimes, l'arrestation des meurtriers, le respect de la loi sur le port d'armes et qu'elle demande solennellement l'autodissolution de tous les mouvements clandestins. Nous interpellons les mouvements nationalistes, qu'ils soient clairs, ou bien ils sont pour la dissolution de leur branche clandestine, ou bien ils cautionnent l'installation en Corse d'un régime de terreur. Nous lançons un appel à toutes les autorités morales et spirituelles de ce pays pour qu'elles se prononcent contre la banalisation de la violence. En particulier, nous ne comprenons pas que des prêtres s'accommodent de certaines manifestations guerrières lors des enterrements. Par ailleurs, au plan éducatif, nous avons demandé aux recteurs d'académie d'organiser une journée de réflexion et de sensibilisation dans les écoles sur la violence armée. Enfin, nous lançons le même appel aux femmes et aux hommes de ce pays. La Corse a besoin d'une véritable révolution de ses mentalités. Plus de bouches cousues, rencontrons-nous, parlons-nous, confrontons nos idées. Pour que cesse de grandir la haine, ouvrons des espaces de parole, de tolérance et de respect de l'autre. Alors les femmes que vous venez d'entendre, c'est les femmes de Doni Zulan. Doni Zulan, c'est un groupe de 5 femmes corses qui ont eu le culot de commencer à chanter ce qui était normalement des chansons d'un bastion masculin. Et elles sont à la fois, comme je lis une petite critique de leur travail dans un journal, on dit d'elles qu'elles sont très fidèles au style pagel, à cette polyphonie dont vous venez d'entendre un exemple précis, mais elles sont par nature révolutionnaires, puisque cette superbe chorale féminine est la première à s'illustrer dans un genre jusque-là resté un monopole viril. Eh bien, les Denis Zulane, nous les avions rencontrés l'an passé, quasiment à la même époque, dans le cadre du Festival de la Bâtie, encore un concert organisé par les ateliers d'ethnomusicologie. Et j'avais pu rencontrer deux d'entre elles pour évoquer leur travail de reconstitution de ces chants, d'apprentissage, comment petit à petit elles ont gagné leur place dans le chant polyphonique corse, effectivement ce chant normalement réservé aux hommes, tout comme en Sardaigne. Et puis, j'avais l'intention de vous en faire écouter encore quelques extraits de cette interview, mais je crois que notre émission d'aujourd'hui tire bientôt à sa fin et il est nettement plus intéressant d'écouter une autre chanson des Denis Zulane plutôt que de vous faire écouter une interview que nous avions déjà effectuée. Mais peut-être nous aurons l'occasion de les réentendre. Je voulais juste vous dire que à cause de mon coup de cœur pour ces femmes corses, tout à coup, bien sûr, on ouvre les yeux sur plein d'autres choses. Le texte dont je me suis inspirée pour vous parler de la situation en Corse, je l'ai trouvé dans le journal Géo, qui évoque le magazine sur le monde Géo, qui fait un numéro spécial de cet été sur la Corse sauvage. D'ailleurs, autant on a fait une non-pub touristique pour empêcher à cause de la violence en Corse, autant les journaux et autres magazines se sont acharnés à parler de cette Corse magnifique. Mais cela dit, la Corse est un pays magnifique. Alors allez-y, profitez de ce que par ailleurs, ceux qui préfèrent se bronzer sur les plages encombrées, tranquillement, sans risque d'aller voir comment vivent vraiment les gens et qui seraient éventuellement apeurés par ces problèmes en Corse, eh bien, profitez-vous d'y aller, ça vaut la peine. Eh bien, j'ai tout à coup ouvert les yeux sur beaucoup d'autres choses et j'ai trouvé un livre fabuleux qui raconte l'histoire de Francesca Maria. Francesca Maria, c'est une femme qui est née au début du siècle dans un village au-dessus des montagnes près de Bastia, dans la région de la Châtaigne. Et elle a raconté toute son existence à son petit-fils qui s'appelle Paul Dalmas Alfonsi et qui raconte un petit peu toute la vie des villages, des femmes de son époque, donc en ce début du XXe siècle. Elle mourra à l'âge de 82 ans. Eh bien, peut-être j'aurai l'occasion de vous raconter encore une autre fois son histoire. Donc vous voyez, à coup d'intérêt pour un seul coup de cœur, un manifeste, un article dans un journal quotidien en Corse, on construit tout un coup de cœur bien plus étoffé. Alors n'hésitez pas, je vous le rappelle, à nous faire part de vos propres coups de cœur en nous écrivant ou en nous appelant au 50 40 51 41, 50 40 51 41 059 si vous appelez depuis Genève, mais ceci uniquement entre 17h et 18h30 le mercredi, ou bien écrivez-nous Remue Ménage chez Catherine S, 11 rue François Jacquier, 1225 Genève.